poésie des bouches.
La 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 poésie des bouches.
Parce que la poésie débouche les oreilles et que les bouches sont poésie.
Un vendredi sur deux, de 14h à 15h, la poésie débouche toujours les oreilles.
Un vendredi sur deux, de 14 à 15h, la poésie débouche vos petites oreilles.
Un vendredi sur deux, de 14h à 15h, la poésie débouche.
Parce que la poésie débouche les oreilles et que les bouches sont poésie.
La poésie débouche.
La poésie débouche.
Mais pourquoi la poésie débouche?
Bah, parce que la poésie débouche les oreilles.
Et que les bouches sont poésie.
Ah.
Bonjour à toutes et à tous. En ce vendredi 13 janvier, nous ne parlerons pas superstition. L'émission du jour sera placée sous le signe de l'histoire. Vous entendrez les voix de Christophe Manon, Julien Boutonnier, Serge P. Et dans la deuxième partie de l'émission, je recevrai le poète Jean-Baptiste Cabot. Qu'est-ce que l'histoire ? Évolution de l'humanité à travers son passé, son présent, son avenir. En préparant cette émission, j'ai demandé à quelques amis historiens de m'en dire un peu plus concernant l'histoire. J'ai alors retenu ces citations du très connu et renommé Marc Bloch. Sans se pencher sur le présent, il est impossible de comprendre le passé. L'histoire est la science du changement et à bien des égards, une science des différences. L'histoire est la science des hommes dans le temps. Histoire ancienne, histoire du Moyen-Âge, histoire moderne, histoire contemporaine, histoire sainte, histoire des civilisations, histoire de l'art, histoire littéraire. Marc Bloch toujours. J'ai toujours pensé qu'un historien a pour premier devoir de s'intéresser à la vie. Et le poète ne s'intéresse-t-il pas lui aussi à la vie? Alors, en poésie, comment écrire l'histoire, la dire, tenter d'en exprimer les contours, essayer d'en dessiner les courbes, les lignes? Je commencerai par ces mots d'André Chédide, extrait de son ouvrage « Rencontrer l'inespéré ». Innombrables les hommes, innombrables les temps, innombrables nos traces, immémorial le jeu. L'actualité se débite, le passé thésaurise. En quel sol fertile s'inventera demain? Maraudant loin des clôtures, jonglant avec les masques, surplombant le quotidien, hors de l'étroite peau, tu découvres ton spectacle à l'écoute du souffleur. Innombrables les terreurs, immémorial le chant, mais tu demeures debout face aux discordes du jour, aux assauts de l'histoire, aux mirages de l'avenir. Invincible sondeur de l'énigme tenace et des arcanes de l'âme, tu demeures debout, homme innombrable au temps immémorial. chers auditeurs de La Poésie des Bouches, l'invitation est donc lancée à pénétrer l'histoire. Pour commencer, un texte de Julien Boutonnier, poète francophone résidant à Toulouse, pour présenter cet enregistré. Ce poème est une approche de l'histoire du côté des victimes, des assassinés, des prétendants à la fosse commune ou encore au fond marin. Le poème s'appelle « L'absence de bouche » et c'est bien sûr parce que leur parole n'est pas entendue, ne sera jamais entendue, parce qu'elle est indicible. En cela, cette parole des assassinés, cette parole de l'absence de bouche parle en nous les vivants, à la façon d'une présence fantomatique. En cela, elle provoque le poème, lui prête sa nécessité. L'absence de bouche, c'est la cause du poème par lequel elle est retournée en expression vive. Ici, c'est le début qui est lu donc par l'auteur du poème, bien sûr. C'est un aperçu en quelque sorte. Je vous laisse écouter, auditeur.
J'ai un corps, c'est un ventre, il n'a pas d'esprit, non, il est là dans le trou depuis ce qui révulse la voix. La voix qui de Gésir a même l'absence de bouche n'a plus cessé depuis Rosa Belfer. Rosa Belfer a regardé les dates, elle les a ignorées, tu sais ça, l'eau glacée de vague en vague avec Hussein Kyle et Mehdi. Hussein Kyle et Mehdi qui se noient dans le froid des vagues et le silence après, c'est le nom de Sophia Malkus. Sophia Malkus assassinée, oui assassinée, Sophia Malkus avait 46 ans, assassinée à Mykolaïev le 2 mars 1941 et Rosa Belfer. Rosa Belfer, assassinée aussi, assassinée le 8 septembre 1941 à Satanov, leurs doigts creusent dans les dates à rebours. À rebours de ce jour, à rebours du meurtre. Le meurtre, c'est le visage de l'histoire. Oui, de l'histoire, c'est le visage de l'histoire. L'histoire. Le meurtre, c'est le visage de l'histoire, jusque dans le ventre. Dans le ventre, Hussein Kyle et Mehdi, ils ont cette colère et cet espoir qui sont le ferment des civilisations. Des civilisations dont Rosa Belfer et Sophia Malkus sont des noms qui brillent dans la colère et le meurtre. Le meurtre. N'a pas de mot pour ça, pour le nom de Rosa et le nom de Hussein Kyle et le nom de Mehdi et le nom. Le nom de Sophia dans le ventre, le corps se dresse, il est de la nuit, il est de l'absence de bouche et c'est la nuit qui en est la matière, le corps des corps, le corps. Le corps se révolte, et c'est dans l'absence de bouche qu'il se révolte, et Rosa Belfer et Sophia Malkus. Sophia Malkus se relève, elle roue de coups les salauds qui font des saloperies, et c'est du sang. Et c'est du sang dans ton absence de bouche, du sang dans ton absence des paroles, du sang, c'est du sang du meurtre sans bouche. Sans bouche. Hussein Kyle et Mehdi, dans l'eau glacée, ils nagent et ils veulent vivre. Vivre, c'est tout, vivre. Vivre, ils veulent, ils ont cette volonté avec vivre, ils ont ça avec le sang qui hurle, vivre. Vivre, ils se noient Mehdi et Hussein Kyle, comme Rosa et Sophia aussi se noient dans la mort. Le mort s'ouvre sur les plaines, c'est un cri dans le visage de l'histoire, c'est l'énergie de la nuit jusque dans les pas des morts. Des morts rôdent, les morts rôdent depuis une balle dans la nuque hier et aujourd'hui, c'est un présent dans le ventre. Le ventre, la nuque raide et le silence et la nuit de la nuque raide. De Sophia et Rosa et Kertész. Kertész, il écrit « J'étais Ernaud Sepp ». Ce n'est pas « Je suis Ernaud Sepp » qu'il écrit, non, c'est « J'étais Ernaud Sepp ». J'étais Ernaud Sepp qui l'écrit, et c'est dire qu'après le ventre des massacres, après le bruit du gaz dans les thorax, c'est dire qu'aucune parole n'existe plus pour dire ce qu'est Ernaud Sepp. Ce qu'est Ernaud Sepp et ce que seraient Sophia et Rosa et puis Mehdi et Hussein Kyle aussi, jamais aucune parole ne pourra saisir Ernaud Sepp. Ernaud Sepp parce qu'Ernaud Sepp a disparu et c'est comme ça qu'il est au monde. Au monde, c'est dans sa disparition, et moi je le sens, c'est dans ma disparition que j'existe, c'est dire que la parole ne tient pas ce qui passe. Ce qui passe, ça reste le souffle d'une explosion. Je le vois, moi, que nous sommes le souffle d'une explosion, un vent de la disparition, voilà. Voilà, mais qui témoigne alors? Qui témoigne de ça? Qui témoigne? Qui témoigne de ça?
Un peu de musique. Porte Z de Feu Chatterton.
Une plaine et des cœurs d'enfants, rien n'était plus beau qu'aujourd'hui. Le soir tombait comme un rideau, les jeunes gens s'en allaient. Le soir tombait comme un rideau métallique. Les jeunes gens s'en allaient, rêvant à l'air libre, allergène d'une autre plaine. Et le jour avait une couleur d'été, de printemps, des milliers d'avions éventraient le ciel, mais nous l'avions. Et le jour avait une couleur d'été, de printemps, des milliers d'avions éventraient le ciel, mais nous n'avions. Heure de rien. Enfin, cette clameur qui étourdit, les nues se fendaient de sifflets. Les jeunes gens s'en allaient. L'azur se fendait de sifflets métalliques. Et les jeunes gens s'en allaient. Activement élevé au milieu de la plaine, parmi livres cartes, il s'en allait sur le champ, s'en allait se perdre au milieu de livres cartes qui activement élevé un grand bûcher pour se distraire. Là tout juste au cœur de la plaine, au cœur de la plaine. Et le jour avait une couleur d'été, de printemps, des milliers d'avions éventraient le ciel, mais nous n'avions. Et le jour avait une couleur d'été, de printemps, des milliers d'avions éventraient le ciel, mais nous l'avions. Peur de rien, peur de rien dans cette plaine. Cette autre plaine, une autre plaine, une autre plaine.
Pour poursuivre, je vais lire Serge P., extrait de La main et le couteau. L'homme sauve la poussière et emprunte des souliers pour marcher, afin que l'on ne reconnaisse plus ses pieds sur la route. Dans son regard, un œil ne brille pas, mais une empreinte de doigts coupés. La main nue qu'ils ont greffée sur sa poitrine désigne des réponses, en déshabillant encore davantage ce qui est vu. L'homme questionne. Qui occupera la ruine? Qui placera des draps sur les meubles mauvais de ceux qui sont partis? Qui laissera sa veste pendue au crochet dans les couloirs? Dieu bâille et nos sexes jouissent ensemble. Dans sa bouche ouverte et le bord du ciel reste un aigle qui trace un cercle de plus en plus grand au-dessus de nous. Ce matin, Dieu est le tas de cendres d'un zéro que nous avons brûlé au hasard avec une torche. Dans le souvenir de sa bouche ouverte, nous plantons le centre où nous avons été. Nous poursuivons le centre, au bord de la cendre, et l'espérance seule est la consonne qui change notre parole en regardant le bord où le rien n'a jamais parlé. Le point est le centre de ce que nous ne savons pas, et le centre est le point que nous savons autour du bord qui nous entoure et nous voit. Sur la cendre, nous ne savons pas ce que nous écrivons, mais nous faisons autant de centres que le feu mort dans les points infinis de sa poussière. Comme ce Dieu qui ne s'atteint jamais lui-même jusqu'à ne plus exister, comme nous, entre nous et presque nous, comme ce Dieu entre lui et sa presque image qui ne se reconnaît plus dans ses statues, comme ce poisson de verre qui file entre nos mains, comme cette femme qui crève ses yeux devant la petite épaisseur d'un miroir qui la renvoie, comme nous entre nous et presque nous qui brisons ce miroir, comme toi qui colle les morceaux à l'envers d'une photo pour la collection d'un petit mort dans l'avenir, comme nous, entre nous, saisissant les cheveux du ciel qui nous hisse vers la fuite d'un nuage, comme ce nuage qui s'efface dans nos mains quand nous l'avons saisi, comme nous qui nous atteignons nous-mêmes jusqu'à toujours exister, même quand nous ne sommes plus là. Passer vers la moitié du dehors en laissant un pied à l'intérieur de la maison et les mains dans une poche du costume de son cœur. Ici, la poussière est la dernière fois de l'instant, sur la marche de silence du théâtre. Je reste fidèle à la résistance de la poussière qui fait l'amour contre les rideaux et les masques. Ici, le lieu tremble quand je le prie et ma bouche change sa première lettre. Et je dis « le Dieu tremble quand je le prie ». Ce que je t'offre, une fenêtre logique, une main remplie de silence logique, un poker d'homme logique. Le clown illogique n'ouvre le rideau de scène que lorsque les spectateurs sont partis. Visage logique de la mort du dedans, contre visage logique de la mort du dehors. Notre rire parfois se retourne, nous montre les dents, et nous ne savons plus quel pain donner à manger, à sa faim qui ne s'arrête pas sur nos lèvres. Et nous devenons la chose absolue, entièrement celle que l'on prie, sans différence entre l'être de l'arbre et l'être du ciel, et l'être qui ne tourne pas à l'intérieur de nos os. Et nous prions comme le vide blanc que nous buvons dans nos bols avant de les remplir de fièvre pour la neige. Dans l'alphabet du ciseau, le U et le V se confondent dans la pierre, et l'on ne sait qui est la consonne ou la voyelle, qui se prononce devant nous, quel mot de feu s'arrête dans notre salive. Les lettres du Dieu écrivent celles du vide, dans le désordre de notre mot, dans le désordre de notre mort. Le poème ne prie que le sexe de la nuit, et aussi le tambour muet qui annonce l'étoile dans la poubelle et la mouche qui se pose en retard sur notre rire. Soudain, les lettres aimantent le monde et le partage dans le poème qui nous dit. Soudain, les lettres nous ouvrent les yeux sur notre dernier travail d'homme qui hésite en trébuchant entre le mot et la mort. On poursuit en musique avec Sophie Enger qui chante sur Éric Truffaz, une musique d'Éric Truffaz. Nous allons écouter Christophe Manon, un poème intitulé, un texte intitulé Au nord du futur, réalisé à Bazoches en juillet 2016, donc cet été, au cours du festival Samedi Poésie Dimanche aussi. Ces poèmes font partie d'un livre intitulé Au nord du futur, paru depuis aux éditions Nous en septembre 2016, donc à la rentrée. Je vais l'introduire très rapidement avec deux extraits que j'ai donc tiré de l'ouvrage. Christophe Manon donc. Ce que nous recevons n'est qu'un écho étouffé de la rumeur aléatoire du vivant dont l'énigmatique inflexion semble préluder à notre effacement. Bégayer sans cesse pour parler. De notre temps, la langue quelque part avait rompu. La digue, il ne restait que quelques consonnes des sédiments. Narratif, limon et sein de forme surface. Effacé et nous, inéluctable, inouï, cherchant dans la trame des siècles un avenir possible, noyé, englouti dans l'idiome emporté par la houle, échouant sur la rive d'une césure, peut-être à bout de souffle. Se taire pour sortir du silence, se taire, endurer la désorientation de l'époque. Dire cela, dire la cécité, toujours pareille, articulé en un balbutiement. Quel nom, quel mot, quelle mort, et nommé quel désastre ! Un naufrage, une farce ? Peut-être. Écoutons.
Nous sommes allés, allés au-devant de nous-mêmes, ne craignant ni la fatigue, ni les épreuves. Nous cherchons asile pour nos exils intérieurs, des replis stratégiques, traversant des nuits plus nocturnes que la nuit telle, qui marche et des poissons pâles, nous avons vu. Les usines désaffectées, vues. Les industries pétrochimiques, usines à gaz, centrales électriques, réacteurs nucléaires, vues. La domestication des êtres, le contrôle des flux migratoires, le bitume. Brûle, nous semelle, respirer, notre seule vertu, respirer. Non pas un renoncement, respirer. Sans heurts, sans déchirement du temps, certain. Attendez la promesse de nouveau. Possible, mais personne, jamais. N'est venu personne. N'a déclenché l'alarme. Les torsionnaires ouvraient des plaies. Au fond des océans, nous n'entendions pas. Le cri fermé dans les mâchoires déchiquetées des poissons nids. Les soleils décapités, nous jetions à terre leur noble sang. Il n'y avait plus de nom pour ceux qui poussaient maintenant. La verdure, nous l'aimons exubérante et grasse, les animaux. Couleur de mousse même, les morts, nous les prenons dans nos bras comment ? Sera l'amour à la fin des âges, à la clarté des feux devenu ? Immobile sera-t-il se réconcilier dans un baiser, fleurir en bouquet de paroles qui s'envolent et disparaissent ? Disparaissent dans le silence lui-même volant et disparaissant et son bruit se résorbe et se mue en pierre. Étranger dans la langue écartelée, entre deux siècles les pieds au nord du futur, nous savons le goût du désastre ou quelque chose de stellaire a disparu puisqu'on ne peut arrêter. La chute des astres est sur nos lèvres, la cendre qui fut s'élevant dans les rouges du matin où désormais s'enlise. Nos espérances, la mort, nous fauche-t-elle dans l'indifférence ou bien en nous parlant doucement avec autant d'amour qu'elle peut expliquant ce qu'elle fait. Pourquoi elle le fait et se dérobe-t-elle ? La terre sous nos pieds faute de l'avoir aimée. Nos corps sont devenus syntaxe, il nous faut déchiffrer la physique. Des rêves, notre conscience est-elle autre chose qu'une banderole de brume et de silence pendant les grandes poussées de gel, un portrait de sang sur la neige qui fond à la lumière. Du jour ne sommes-nous pas ? Éleveurs de poussière, gardiens d'une parole fidèle, contagieuse et qui prolifère, n'avons-nous pas ? Vive et tenace la passion du réel imprenable. Et notre forteresse longtemps. Nous avons lutté longtemps. Nous sommes restés debout guettant. Dans le mugissement de la masse poreuse du temps, le bruit qu'il fait et comme il se déchaîne, comme il déploie sa science. Nous contemplons dans un éblouissement le spectacle du temps, le corps, de l'histoire devenue mobile sous nos yeux, les spectres immenses que les siècles ont laissés dans l'espace et ce sont des nuées, la poussière remuée des enfers, un abîme, ouvert entre les univers une vibration, de photons et d'atomes qui tourbillonnent et se matérialisent dans un rayon de soleil. Où est conservé ce qui a disparu derrière le temps ? Où sont les noms de ceux qu'on a trahis dans l'ombre, les disparus dans les défaites plurielles, les parias, dont les plaies n'auraient pu, nous sont-ils ceux qui n'ont pas été ensevelis, ceux qui n'ont pas été dénombrés, les enfants ? Non, nés que nous avons aimés les fils, invisibles, nous laisserons-ils nous reposer dans nos blessures, ressentir un tourment semblable de la joie ? Armés d'une juste colère plein de la vision des choses advenues, nous ne pouvions détourner le regard du siècle. Barbares, nous brûlions l'imaginaire pour échauffer le réel, mais il s'est vengé en exigeant de vraies larmes et du vrai sang. Nous n'avions pas de mots pour dire les mots qui restent dans la gorge, impossible de restaurer le sourire qui nous éclairait autrefois, impossible de retrouver la main qui nous prodiguait des caresses parfois. Nous entendions les hommes raconter, c'était comme un feu qui chauffait nos entrailles et le ciel intoxiqué, nous le remplissions de matière noir, nous adressions des messages au cœur de l'univers, mais personne n'entendait les sanglots de l'enfant, le cri de celle qui fut violée, car voilà ce qui s'est passé, et partout le silence s'amplifiait au cœur du bruit, et cependant, nous percevions un chuchotement, plus ancien que nous-mêmes. Nous tentions de tendre l'oreille au temps et de le faire entendre, nous imaginions des fictions pour travestir le réel, pour ne pas être poursuivis par nos ombres berçant Notre infini, nous cherchions à capturer la vie dans nos livres, mais comment garder mémoire d'un éblouissement il n'y avait que des mots qui s'ajoutaient à d'autres mots, l'envie désespérée d'éternité et d'absolu qui bouleverse nos cœurs une poussière à la fin répandue sur toute chose, et cela aussi n'était qu'une forme de torpeur pareille à ces blessures qui nous sont antérieures, mais tenir, il le faut accepter la splendeur du sensible, car que le monde est grand, aux yeux de nos souvenirs, que le monde est petit et cependant plein de grâce, et comme il vacille, comment certains ont-ils pu pratiquer l'art de la peur avec une telle maîtrise? Comment ont-ils pu aiguiser leur couteau, laisser le désarroi niché dans le cœur des asservis que soulève la colère ou détruit l'abattement, et eux, les fugitifs, les dispersés, les humiliés dans la crainte et dans le dénuement, comment ont-ils pu croire en la promesse à nouveau qui ne fut pas tenue ainsi? L'abject fut et franchit le pas, pourquoi avons-nous laissé se faire? Pourquoi, vulnérables dans l'égarement, avons-nous laissé croître en nous ce qui a eu lieu comme une défaite? Et quel sens cela peut-il bien prendre? Il n'y a pas de vérité dans cela. Cela ne veut rien dire. Longue fut l'attente en ces temps de détresse. Il y avait tant de haine en nous qu'on aurait pu la nommer amour de nouveau. Nous cherchons une vérité à hauteur d'homme, une pensée dangereuse et transformatrice du réel. Il nous faut tout inventer jusqu'aux atomes, trouver un nouvel imaginaire, des formes éblouissantes ajoutées, des pays, des mers différentes, les changements de soleil, des danses, des chants, de la musique, des coups, et frappés de stupeur, contempler les paysages rêveurs dans les yeux, les rescapés, le ciel fatigué, les arbres tuméfiés, les roches bondissantes, regarder ce qu'on ne voit pas avec nos yeux aveugles quand secrètement l'oubli rassemble ses forces pour vaincre la lumière.
Avant de retrouver Jean-Baptiste Cabot, je sais que vous êtes impatient, on écoute le morceau « This place was a shelter » d'Olafur Arnalds.
Thank you.
Jean-Baptiste.
Bonjour.
Je suis ravie de t'accueillir pour cette cinquième émission de la Poésie des Bouches. Comment vas-tu ?
Ça va, je suis ravie d'être accueillie.
Bon, ouais, je suis ravie. Je te présente rapidement pour les auditeurs. Tu es née en 1970 en Savoie, donc pas loin de Lyon. Après une dizaine d'années passées dans le graphisme, tu te consacres depuis 2005 entièrement à la poésie, écrite, parlée, dessinée. Je note, notons, ton premier album pour la jeunesse, Le Petit Inconnu au Ballon, illustré par Fred Barnard, paru en 2007 aux éditions Le Baron Perché, sous la houlette de la romancière et éditrice Maëlys de Kerangal. Il a été traduit en brésilien et en grec notamment. Ton premier recueil de poésie, Les Mécaniques, a été lui publié aux éditions À plus d'un titre en 2008. Et le dernier, Fleurs, apparu aux éditions La Passe du Vent en mars 2014. Tu publies également des textes en revue, Voix d'encre, Mercure liquide, Arfang, Tekel, Triage, Bacchanal, Oust et en ouvrage collectif. De tes textes, tu donnes lecture et performance régulière en France et à l'étranger, en voix seule ou au sein de la formation de Poésie Électro Saint-Octobre, que tu as montée avec le musicien et ami David Champé. Et tu as également traduit à quatre mains de la poésie tchèque, publié notamment dans la revue Bacchanal, le numéro 49, auditeur, et lituanienne édition Bruno Doucet, en collaboration avec l'événement Le Printemps des Poètes. Voilà pour la biographie, c'est toujours un peu... Mais ça permet de dire aux auditeurs que tu es à la fois poète, que tu écris, que tu dis la poésie, et puis de notifier aussi tes écrits en jeunesse, etc. Mais maintenant, je ne parle plus. Peux-tu nous raconter comment tu es entré en écriture et puis justement nous expliquer, tes écritures sont plurielles, alors qu'est-ce que tu recherches plus particulièrement dans cette pluralité d'écriture et dans l'écriture poétique, Jean-Baptiste ?
Oui, parce que tout ce que tu viens de dire est tout à fait juste. Peut-être des précisions que je rajouterais, parce qu'effectivement, j'aime ça, j'aime dire que je fais de la poésie écrite, parlée et dessinée aussi, parce qu'il y a du dessin, du graphisme et des expositions qui font partie de mon travail, et que je range absolument dans la catégorie poésie. C'est-à-dire que pour moi, même si je viens de là au départ, je suis vraiment un enfant du livre. J'ai mis du temps, et je dirais pas que je l'ai fait à contre-cœur, mais en tout cas, j'y suis pas allé tout seul, et on m'a poussé, les circonstances m'ont poussé à aller regarder du côté d'une poésie qui se passait plutôt du côté de la scène, à voir ce qui se passait au niveau de la poésie contemporaine en dehors du livre, parce qu'effectivement, maintenant, il y a une bonne partie de la poésie qui se passe en dehors du livre. Moi, je viens du livre, et voilà, et ces découvertes-là, j'ai vu, j'ai découvert, j'ai aimé, et je les ai intégrées à ma propre pratique, ce qui fait que je parlerai même pas d'écriture plurielle, en fait, mais vraiment de pratique plurielle autour d'un même nom que j'appelle poésie, ouais, pour le coup.
Ok, vas-y, tu voulais dire ?
Je voulais dire, dans la liste des livres, par exemple, que tu as dit aussi, il y a effectivement, en fait, le tout dernier, mais effectivement, qui n'est pas paru en nom propre, s'appelle Nouveau Noum, et il a paru aux éditions La Passe du Vent en mars 2016, et je crois qu'on va en parler. Et effectivement, c'est encore une forme de poésie plurielle, puisqu'il est paru sous le nom... de Saint-Octobre, c'est-à-dire le musique et texte qu'on fait avec David Champé, et en association avec Cinéma Fragile, qui sont des réalisateurs de films de cinéma poésie, avec une photographe, Anne Bouillot, et un graphiste, Clément Payot. Et c'est vraiment un ouvrage collectif, et livre, film musical, enfin, exposition de photos, voilà. C'est
Alors justement, bah peut-être, maintenant qu'on parle de Saint-Octobre rapidement, avant de parler un petit peu plus de ton lien avec le thème d'aujourd'hui, l'histoire, dans ton écriture sans doute toute personnelle, j'ai envie de dire, là on parle d'un projet collectif Saint-Octobre et on va entendre du Saint-Octobre tout à l'heure. Et maintenant que tu en parles, dis-nous justement, qu'est-ce que c'est Saint-Octobre? Qu'est-ce que c'est que ce duo? Qu'est-ce que c'est que de travailler en musique, etc., de penser avec David Champé, avec le musicien, le compositeur, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette aventure?
Ouais, c'est une aventure millefeuille en plus, puisqu'elle s'est faite vraiment en plein d'étapes. Moi, en parallèle de la poésie, depuis très longtemps, j'ai eu des envies de musique. J'ai moi-même, avec mes premiers ordinateurs, fabriqué un peu de musique. Et je me suis essayé à la composition. J'ai tout le temps entreposé plein d'instruments chez moi, dont je joue très mal. C'est-à-dire, je joue très mal de beaucoup d'instruments, et en tout cas pas suffisamment pour en faire une pratique tant soit peu professionnelle. Et voilà, et en parallèle de la poésie, j'ai commencé à travailler avec David Champé en peut-être 2004, 2005, quelque chose comme ça. Et pour dire, bah vas-y, on fait de la chanson. Et on a bossé pendant 3 ans, 4 ans, pour essayer de fabriquer des chansons qu'on a fabriquées et qui nous ont permis de me rendre compte que je suis un très piètre chanteur. Vraiment pas très bon. Et... Par contre, l'expérience de travailler ensemble avec un musicien qui est pointu et très performant et dont j'adore, pour le coup, dont j'adore vraiment le travail artistique et la créativité, la richesse de l'univers musical. Voilà, il y a un moment, on s'est dit, bon, la chanson, c'est pas possible. On va arrêter. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? Parce que on a envie de continuer à travailler ensemble. On s'entend bien. Ces 3 ans, 4 ans n'ont pas été perdus. Bien au contraire, parce que ça a permis de rentrer dans une confiance de travail, une proximité de travail et une connaissance approfondie de comment on pouvait faire pour travailler ensemble. Et voilà. Et en fait, moi qui à cette époque-là commençais à mettre en place une pratique scénique de lecture de poésie. En fait, on a couplé ça. On a couplé, ou ça, j'arrive à le faire à peu près bien. Et on a couplé ça et on s'est dit, bah voilà, on va travailler ça, lecture de poésie et musique ensemble. Sachant que du coup, David, qui est un musicien qui vient d'une musique plutôt dure et tout ça, et que la poésie, il en a rien à foutre, absolument. Et du coup, c'était intéressant de travailler ça aussi parce que, voilà, du coup, il m'a forcé à une confrontation artistique en disant, mais voilà, dans des constructions de morceaux, moi je lui disais, tu vois, mais là, il y a le texte, et puis, donc là, ouais, je vais crier, et puis après, pouh, ça devient tout doux et tout. Il me disait, non, mais ça, c'est pas possible. Là, moi, tu me demandes de faire une montée, et au moment où tu cries, et ben après, on construit un morceau. Une fois que t'as ta montée, faut que ça éclate. Donc, moi, là, au niveau musique, ça va éclater. Donc, si tu veux qu'on t'entende, soit tu hurles, soit tu décales ton texte. Et du coup, voilà, on a réussi à mettre en place un équilibre avec un texte qui n'est pas, avec une musique qui n'est pas asservie au texte, comme ça se fait assez souvent en poésie musicale. Et ça, je trouve ça super intéressant.
Tu as eu l'impression de sortir de toi, justement, avec ces compositions, avec les compositions de David Champé, qui, on l'écoutera, c'est vrai, sont assez éclatantes, elles sont puissantes et en effet ça monte. Hein, t'as eu l'impression de sortir de toi, de que ta voix de comment dire, oui, sortait, devenait un peu se lâcher.
Ouais,
plus,
c'était en fait une continuité de ce que j'avais commencé à expérimenter sur scène, qui est un vrai travail corporel et pour moi qui est, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est une formule un peu réducteur, mais pour moi qui ai vécu avec une sensation du corps très limitée pendant pas mal d'années, quoi. Comme pas mal de poètes, j'ai des choses qui se passent plus dans le cerveau que dans le corps. Et du coup, la présence scénique, c'est pas rien de ce point de vue-là. Et que, voilà, en plus, moi, tous les textes que j'écris, il y a un truc sur scène, en fait, il y a un truc que j'aime pas du tout, c'est les poètes, enfin, ou lecteurs qui montent sur scène et qui débite des textes d'une manière un peu monocorde, sans aucune émotion, et il faut qu'il y ait un début, il faut qu'il y ait un milieu, il faut qu'il y ait une fin, et puis une fois que c'est fini, et hop, on passe à autre chose. Il ne faut pas tomber non plus dans la surinterprétation, et j'ai beaucoup de mal, par exemple, avec des... On n'a pas le temps de développer ça, mais avec les comédiens, par exemple, qui lisent de la poésie, parce qu'ils essayent toujours d'incarner un peu trop que ce qu'il faudrait. Il ne faut jamais oublier qu'une lecture de poésie, c'est une lecture, ce n'est pas une pièce de théâtre, et ce n'est pas un... tout ça. Enfin, il y a des questions d'incarnation là-dedans. Mais corporellement, ouais, il se passe des choses assez dingues. Et effectivement, oui, quand... être sur scène, parler, provoque des choses. Quand là, je me suis retrouvé face à une musique où il fallait que je me mette à hurler, et vraiment à hurler pour qu'on entende ce que j'ai à dire, et ça débloque des choses. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Mais effectivement, ça fait bouger des lignes, ça apprend des choses et des positionnements. Et c'est assez étonnant.
Oui, parce que c'est vrai qu'en lecture, en tout cas, on va pas aujourd'hui résoudre la question de comédien qui lit. Est-ce que le poète lit mieux ses poèmes que le comédien peut le faire? Il y a aussi des poètes qui sont très théâtraux, etc. Chacun lit, il y a différentes façons de lire et différentes façons d'apprécier ses lectures. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que le lecteur, le poète est lecteur, et le poète, son instrument, c'est aussi sa voix quand il lit. Et ça, il faut pas l'oublier, et que la voix, ça, c'est un instrument. Et c'est l'instrument du poète, et que l'oralité de la poésie, elle est là. Il faut pas la mépriser ni la mettre de côté. Alors, avant d'écouter Saint-Octobre, aujourd'hui c'est l'histoire, la thématique, Jean-Baptiste. Oui. Et si je t'ai invité là-dessus, c'est pas pour rien. Hein, je le dis aux auditeurs. Évidemment, c'est parce que ton travail d'écriture et certains de tes textes ont un lien très souple et très important à l'histoire. Et donc j'aimerais savoir que tu nous en parles un petit peu plus de cette histoire comme matériel à l'écriture et comme source, etc.
Ouais. Moi j'aime bien voir la poésie comme un outil, et vraiment comme un outil d'observation. Au même titre que peut l'être l'anthropologie, par exemple, ou des disciplines comme la philosophie, ou des choses comme ça. C'est-à-dire un outil d'observation du monde qui peut être tourné vers l'intérieur, et c'est un outil d'observation du monde intérieur, de soi, de l'existence, du ressenti. Beaucoup de poètes font ça, le font très bien. Moi, je fais ça aussi. Une partie de mes livres, Les Mécaniques, Fleurs, ou le livre Pour sortir au jour, le regard est tourné vers le ressenti intérieur pour comprendre les choses. On ne comprend pas tout dans la vie. La poésie, c'est peu expliquer des choses compliquées. On peut mettre en place cet outil d'observation. Et il peut être tourné aussi vers l'extérieur. Et pour le coup... sans être redondant et en aucun cas en essayant d'être documentaire ou quoi que ce soit, on peut utiliser cette poésie-là pour observer des éléments extérieurs, pour observer des époques, pour observer des zones géographiques, pour observer des pratiques. Nous, c'est ce qu'on a fait effectivement avec Saint-Octobre et le nouveau Noum, c'est-à-dire ce livre-là, c'est une rétrospective historique, pour le coup, donc basée sur des faits historiques très très réels, de toute l'activité nucléaire russe en zone arctique depuis 1955 jusqu'à 2016. Et c'est-à-dire qu'on a... J'ai situé une zone géographique très précise, qui sont les zones arctiques, qui est un lieu que j'aime beaucoup et sur lequel je travaille beaucoup. Et puis, on a exploré, par le biais de la poésie, tout ce qui s'était passé là d'important. Il y a les principaux événements, il y en a quelques-uns qui n'ont pas été mentionnés. Mais en 1955, l'expulsion de toute la population nomade de Nénets, de l'archipel de Nouvelle-Zemble, tout au nord de la Russie, pour transformer cette zone en vaste zone d'expérimentation et de tests nucléaires, là où il y a eu qui est encore une zone militaire fermée aujourd'hui, et c'est là où il y a eu toutes les expérimentations nucléaires les plus énormes et de l'Union soviétique et puis de la Russie jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, on a pris différents éléments, des constructions, de centrales nucléaires dans des zones perdues, des naufrages de sous-marins nucléaires, les accidents du brise-glace Lénine, et puis jusqu'à 2016 où là la Russie est en train de mettre à l'eau le premier exemplaire d'une centrale nucléaire flottante qui s'appelle l'Académie Lomonossov. Donc voilà, sans rentrer dans du documentaire tel qu'il peut être parce qu'il y a le documentaire dit d'autres choses. La poésie encore travaille, en tout cas au sens où moi j'ai travaillé ça, beaucoup plus du côté de l'émotion, des questionnements que ces pratiques-là peuvent apporter. Il y a une part de... C'est-à-dire, enfin, un des exemples, le morceau qu'on va écouter tout à l'heure... Tsar Bomba raconte l'explosion de la plus grosse bombe atomique de tous les temps, qui a explosé au-dessus de cet archipel, la Nouvelle-Zemble, le 30 octobre 1961. Comment, en face d'un champignon atomique, par exemple, dont on connaît tous les effets dévastateurs et tout ça, n'en reste pas moins que esthétiquement, c'est super beau. Donc la question n'est pas de savoir s'il faut prendre parti pour l'esthétique ou pour l'abolition de cette énergie, dont par ailleurs j'ai une opinion assez précise. Le bouquin n'est pas un livre militant, pas du tout. Il n'est pas là pour ça, en fait. On a une critique littéraire, justement, qui nous a reproché ça. Mais le nucléaire, c'est vrai que c'est un sujet très, très sensible. Entre les pros et les anti, difficile d'avoir un juste milieu, mais...
C'est bien de le préciser, ça, je pense, en effet. C'est important. Alors, on va l'écouter, ce morceau. Mais avant, peut-être, je ne sais pas, est-ce que tu voudrais nous parler d'un autre texte qui s'appelle La folie d'Alexeïev, et rapidement nous en dire quelques mots, justement, par rapport à cette thématique de l'histoire. Je ne sais pas ce que j'ai le droit d'en dire, donc je me tais, je te laisse en parler.
Tu peux en dire tout ce que tu en sais.
Je peux en dire tout ce que j'en sais.
Non, c'est un texte qui... C'est effectivement La folie d'Alexeïev. C'est le titre de mon prochain livre qui va sortir à l'automne prochain, aux éditions Dernier Télégramme. Et... qui est basé aussi, donc on est toujours encore un travail sur les zones arctiques. On est en URSS en 1957, et c'est basé sur le travail très réel d'un ingénieur très réel qui s'appelle Rostislav Evgenievitch Alexeïev, et qui a passé sa vie à mettre au point des prototypes, enfin qui sont plus des prototypes puisque quelques-uns ont été construits, des prototypes d'avions. C'est des avions géants qui... au doux nom de écranoplane, qui s'appelle avion à effet de sol en français, et des avions que j'ai découvert un jour par hasard, vraiment par hasard, sur internet en 2008. Il y avait très peu d'archives à cette époque-là. Là, on commence à en voir un peu plus. Et c'est des avions géants, le plus gros, le monstre de la mer Caspienne, est plus gros qu'un terrain de foot, et qui volent à 600 km/h en restant à 3 mètres au-dessus du sol, au-dessus de la mer ou au-dessus des steppes, pourvu que le sol soit à peu près plat. C'est une technologie qui a été mise au point, l'effet de sol, par cet ingénieur-là. Et c'est des avions qui sont énormes, qui sont rugueux, qui sont étonnants, parce que ça ressemble à rien, parce qu'il y a des artifices de structure pour essayer d'améliorer le vol et tout ça. Et ce gars-là, Alexeïev, a bossé 20 ans, 30 ans de sa vie, ou plus, sur ces avions-là. Moi, j'ai été fasciné quand j'ai vu ça, en fait. Et l'écriture poétique est une réponse à cette fascination. C'est-à-dire, voilà. Donc, du coup, en plus, il y avait vraiment très peu de. Moi, j'écris beaucoup quand je comprends pas les choses ou pour répondre à des questions auxquelles j'ai pas la réponse. Et là, il y avait ni de biographie sur sa vie à l'époque, ni de quoi que ce soit. Et du coup, je me suis mis à écrire de la poésie pour comprendre. Et en intégrant beaucoup d'éléments historiques, du coup, qui dit URSS, dit la Révolution d'Octobre, et dit tout un courant poétique incroyable qui a eu lieu à cette époque-là. Donc ce livre est le lieu aussi de beaucoup de tombeaux littéraires, hommage aux poètes aux poètes russes du début du XXe siècle, que ce soit Anna Akhmatova, Khlebnikov, plein.
Ok, très bien. Donc à découvrir, les auditeurs, vous avez entendu à l'automne La folie d'Alexeïev aux éditions du Dernier Télégramme. Maintenant, on écoute Saint-Octobre, Tsar Bomba.
Au-dessus du monde, soudain, sans avertissement, la lumière se déploie et Nouveau Noum trouve son parachèvement. Sphère de feu, vive, violente. Lumière sur pression aveuglante s'étire, s'étend, s'enfle et s'élargit. Supersonique, créant onde de choc. Brillante, au-delà du feu, au-delà de la chaleur. À ce degré-là, ne pourra jamais plus s'appeler feu, ne pourra jamais plus se nommer chaleur, n'est plus que l'anéantissement de tout, trou blanc, aspirant tout air, tout oxygène dans une boule de 7 km de diamètre. 7 km. Largement visible au-delà des distances, le déploiement atmosphérique ultra brillant. Interrogation, simplement étonné. C'est quoi ? Ne peuvent pas savoir. Nous saurons jamais. Là-bas, dans les villes habitées, plus au sud de l'Union soviétique, que ces Tsar Bomba explosant sur le désert froid des montagnes de Sévernie et des mers arctiques qu'ils ont vues de si loin. 1000 kilomètres, ne peuvent pas imaginer. À part les étoiles, tu as déjà vu quelque chose à 1000 kilomètres, toi ? Au-dessus, ces deux anneaux de nuages maintenant qui s'étendent dans le ciel bleu vide radieux. Mais dessous, ce n'est plus rien. Sphère de feu de Tsar Bomba, dans sa dilatation, a touché le sol. S'est écrasé au sol, se déformant, continuant encore son expansion, repassant sous la vitesse du son, mais continuant. Expansion, progression, s'allongent indéfiniment les secondes. Encore. Expansion. Encore. Encore un peu. kilomètres de collines tronquées après son passage. Expansion jusqu'à cette dévastation d'espace, cette dévastation de paysages changés, modernisés peut-être, mais aplanis. Désolément unifié, pendant que sphère de feu, à présent froide, s'est recontractée, et que s'élève à sa place, gracieux, un pyrocumulonimbus géant. Montra, jeter un coup d'œil, pour voir à quoi ressemble le monde, jusqu'à 64 km de hauteur, le champignon extravagant. Bien posé sur la poussière de son monopied bouillonnant, roulant sur lui-même ses épais flots sombres traversés d'éclairs de fournaise, et balançant aux entours ses bracelets jumeaux qui continuent à s'étirer presque aussi loin que feu sphère de feu était allé jouer. Toutes ces atmosphères, le pyrocumulo géant curieux, qu'un monde triste, où des guerres de blocs conduisent à des engins de terrassement démesurés, conduisent à lui, pauvre champignon dévastateur. De douleur ou de fatigue s'effondrera. Et de ce dernier harassement s'élèvera le niveau des retombées radioactives mondiales de 25%.
Bon, décidément, je crois que je suis vraiment complètement mordue de Saint-Octobre. Je suis super contente de réécouter ça et de le passer en radio. Alors Jean-Baptiste, le motif de la poésie des bouches, tu le connais. Si tu étais une poésie, un poème, quel serait... Quelle serait-elle ?
Je crois que je ne serais pas un poème en particulier. Je serais peut-être un type de poème. Puis là, je vais prêcher pour ma propre paroisse. Mais en fait, moi, la forme poétique que j'aime vraiment bien, c'est ce qui serait soit le poème un peu fleuve, ou soit la nouvelle poétique, c'est-à-dire quelque chose qui s'étale un peu sur la longueur et où on a le temps de rentrer dedans et de mettre du rythme et des choses et de... Il y a mille choses qui se passent, et peut-être des poèmes de Léo Ferré dans sa grande période, le poème... Ah oui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de Léo Ferré. C'est ça que je veux être.
Ok, super. Merci beaucoup. Quelle musique as-tu choisie ?
Une musique d'un autre musicien, d'ailleurs, Gérard Manset, et que j'ai beaucoup aimé à une époque. Je suis moins fan du personnage aujourd'hui, mais j'adore toujours les anciennes périodes de ce gars-là, et je l'ai choisi parce que par rapport à la thématique de l'histoire, c'est un gars qui est parti, qui a voyagé énormément, beaucoup, qui avait des choses et des énervements et des révoltes à dire, et qui a parcouru le monde pour en avoir une vision, et qui a adapté cette vision-là à sa forme d'écriture qui est vraiment spéciale, avec la rime riche, avec ses textes très curieux. Et voilà, donc du coup là j'ai choisi une chanson qui s'appelle La Mer Rouge, et qui est une chanson hommage au lui-même écrivain aventurier Henri de Montfred du début du XXe siècle. Et voilà, un gars qui, Gérard Manset, qui va chercher ses références assez loin et qui les ramène dans son écriture.
Ok, on écoute ça.
Si tu te retournes, t'attends, t'entends la main qui tombe. Mon pauvre Henri, mon vieil Alfred, mon pauvre Henri, mon frère, où tu pêchais des perles de nacre. On trouve des vieux clopes, des pneus d'un lard. Il y en a qui font la mer rouge en stop. Au fond des volcans plus laves, au fond des barques plus d'esclaves, où tu pêchais des perles roses. Du soir au matin, y a les jets dispo. choses au milieu des massifs de fleurs qu'on arrose. Mon pauvre Henri, mon vieil Alfred, mon pauvre Henri, mon Fred, au fond de l'eau, y'a plus rien qui bouge. Mon pauvre Henri, mon vieil Alfred, mon pauvre Henri, mon Fred, où sont les secrets de la mer rouge? Où sont les secrets de la mer rouge? Mon pauvre Henri, mon vieil Alfred, mon pauvre Henri, mon Fred, tu pêchais les perles rares, les plots qui installent leurs planches à voile pour faire un pique-nique sous les étoiles. Moi-même, le jour, j'ai voulu tout vérifier, j'ai tout vu, j'ai tout lu, parcouru l'étendue, j'ai rien reconnu. Mon pauvre Henri, mon vieil Alfred, mon pauvre Henri, mon frère, où tu pêchais des perles de nacre. Juste à la même place, il y a un palace, on te sert ton whisky sur de la glace. Mon pauvre Henri, mon vieil Alfred, mon pauvre Henri, mon Fred, au fond de l'eau, y'a plus rien qui bouge. Mon pauvre Henri, mon vieil Alfred, mon pauvre Henri, mon Fred, où sont les secrets de la mer rouge? Où sont les secrets de la mer rouge? Vieux clopes, les pneus d'un lac. Si tu te retournes dans ta tombe, t'entends la monnaie qui tombe.
Alors, je remercie Jean-Baptiste Cabot. Donc, merci Jean-Baptiste.
Merci à toi pour l'accueil.
C'était super chouette, je suis ravie. Et puis, j'étais en face, donc bon, les auditeurs ne le savent pas, mais c'est un plaisir de te recevoir, vraiment. Je remercie aujourd'hui Mathieu à la technique. Merci, merci, merci Mathieu. La prochaine, c'est le 20 janvier, autour de l'exil, avec la poétesse Marina Skalova, qui m'arrivera de Bruxelles, de Belgique. La poésie des bouches se réécoute, les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio Canu, rubrique blog des émissions, la poésie des bouches. Bon, vous pouvez aussi taper, je l'ai déjà dit, la poésie des bouches, ça marche. Et puis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. À très bientôt.
Y a-t-il plus bel échantillon pour l'être humain? Y a-t-il plus céleste que cela? Une voix, et ce son-là suffit pour naître. La poésie des bouches.